réplique, la gauche en morceaux, avec Laurent Bouvet et André Burguère. Il y a bientôt 2 mois, lorsque j'ai lancé mon invitation à Laurent Bouvet et à André Burguère, qui viennent respectivement de publier « La gauche zombie » et « La gauche va-t-elle disparaître ?», je pressentais que la gauche, justement, allait souffrir. Mais je ne m'imaginais pas à quel point. Après sa déroute électorale, le Parti socialiste vole en éclats. Et les chances de la France insoumise d'accéder au pouvoir semblent aussi minces que celles du Parti travailliste britannique sous la direction de Jeremy Corbyn. Faut-il en conclure, ce sera ma première question, qu'en plus des élections, Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, est en passe de gagner son pari, substitué au clivage dépassé, fatigué, moribond de la droite et de la gauche, l'opposition toute pimpante des progressistes et des conservateurs. Laurent Bouvet.
Alors, il y a une première manière de répondre qui est la plus simple, mais qui ne résout pas, évidemment, qui ne répond pas au fond. C'est de dire que on doit attendre, c'est le politologue qui parle là, on doit attendre pour savoir si un clivage en remplace un autre, de l'observer, disons, dans le temps. On ne peut pas, sur une seule élection, ce qu'on appelle, il y a une théorie dans la science politique américaine qui s'appelle la théorie des réalignements électoraux, qui sont des réalignements des systèmes électoraux, de l'importance de tel ou tel parti, de tel ou tel clivage. Et on tente de l'appliquer, et vous avez reçu récemment mon collègue et ami Philippe Reynaud, qui dans son livre sur la Ve République s'inspire beaucoup de cette théorie américaine des réalignements électoraux pour expliquer qu'il y a un problème de système et non de régime. Il l'explique très bien dans l'esprit de la Ve République, son dernier livre. Eh bien, si on applique cette théorie, il faut attendre pour savoir si cette élection à beaucoup d'égards exceptionnelle dans le système politique français va provoquer une transformation du clivage. La deuxième manière de répondre, qui est peut-être quand même plus intéressante pour notre débat d'aujourd'hui, c'est que même si le clivage progressiste-conservateur peut dire quelque chose sur la politique française, il n'épuise pas le sujet et reste d'autres clivages bien plus structurels, on pourrait dire presque architectoniques, qui renvoient en grande partie à la droite et à la gauche. Regardez les cartes de l'élection. Ces cartes qui sont une sorte de division quasi parfaite de la France en deux. Le vote Le Pen, le vote Macron et évidemment avec l'héritage du vote du premier tour, où il y a plutôt d'ailleurs 4 France que 2, mais une ligne Le Havre-Marseille, et à l'est, au nord-est de cette ligne, l'ancienne France industrielle, la France des déclassés, la France des fameuses périphéries décrites par un Christophe Gluly, par exemple, qui vote beaucoup plus massivement Le Pen, qui est une France des catégories populaires, des petites villes, des espaces périurbains, et puis cette France de l'ouest, plus dynamique, plus évidemment qui est aussi la France des grandes métropoles, qui inclut le centre-ville et les banlieues, qui est une France qui est beaucoup plus liée, qui bénéficie beaucoup plus de la fameuse mondialisation. Donc on voit bien qu'il y a des clivages. Or, ce sont aussi des clivages sociaux. On voit bien que quand on prend la répartition des revenus dans le vote, ceux qui ont davantage d'argent pour aller très vite ou un diplôme supérieur votent davantage Macron que Le Pen et inversement. Donc on a bien des clivages qui se reproduisent derrière cette étiquette progressiste-conservateur. Et la dernière chose que l'on peut dire, et c'est le problème pour moi du clivage progressiste-conservateur, c'est qu'il laisse, comme disent nos amis anglais, l'éléphant au milieu de la pièce, celui qui est là mais que personne ne veut voir ou que tout le monde fait semblant de ne pas voir, qui est la question fondamentale sous-jacente de cette élection, qui est le libéralisme sous toutes ses coutures. C'est-à-dire, est-ce que on a un clivage entre libéraux, libéraux, libéraux économiques et libéraux culturels d'un côté et anti-libéraux économiques, anti-libéraux culturels de l'autre ? hein, Macron, Le Pen, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué autour de cette question libérale?
Alors, si je vous comprends bien quand même, progressiste selon Macron, cela veut dire conjonction du libéralisme économique et du libéralisme culturel, une conjonction déjà analysée, décrite, prévue par Jean-Claude Michéa, qui en fait d'ailleurs même l'apothéose du capitalisme à son stade ultime. Donc ce serait ça le progressisme selon Macron, l'alliance du libéralisme économique et du libéralisme culturel. Vous êtes d'accord avec cette présentation?
Il y a une présentation, tout à fait, il y a une présentation qu'on peut valider. La difficulté, c'est que quand on parle de progressisme et de conservatisme, on ne parle pas véritablement de la nature et des effets du libéralisme dans chaque cas. Et ce qui brouille cette présentation trop simple, progressiste, conservateur, et pour lequel on ne peut pas tout comprendre et voir du libéralisme, c'est qu'il y a aussi des effets de l'individualisme aujourd'hui contemporain qu'on observe dans la pensée qui, normalement, serait appelée conservatrice. Donc ça ne correspond pas. Pas plus qu'on pourrait opposer, d'ailleurs, libéraux et populistes de manière aussi simple, parce qu'il y a des effets. On voit bien que ce qui est aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard, ces fameux mouvements qui ont tendance à remplacer les partis. Ça a été l'élection des mouvements contre les partis, hein, la France insoumise, évidemment En Marche d'Emmanuel Macron, et même d'une certaine manière aussi le dépassement du Front National par Marine Le Pen dans son élection. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans ces mouvements? On a à la fois quelque chose de très horizontal, quelque chose qui est la participation des citoyens, cette demande de politique nouvelle, hors des appareils, etc., hiérarchisés, et en même temps, à la tête, un chef. Une verticalité presque absolue, le chef qui décide, le chef qui impose. Donc on a à la fois cette aspiration individualiste, consumériste presque en politique, on a des désirs, des besoins, on veut les voir exprimer, mais on ne veut plus de cadre contraignant. Et en même temps, on se soumet à ce désir d'autorité qu'on voit à travers toutes les enquêtes d'opinion, auxquelles répondent ce chef, cette verticalité, et c'est aussi une des caractéristiques du populisme. Donc c'est, vous voyez, c'est plus compliqué, hein, et encore évidemment quand on creuse.
Oui, Macron président jupitérien et Mélenchon chef charismatique de la France insoumise, alors même qu'il veut incarner la fin de la monarchie présidentielle, ce qui est assez paradoxal. André Burguière.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces explications, qui sont par ailleurs brillantes, et je les accepte comme telles. Je crois que, d'abord, le dernier résultat, c'est pas l'opposition entre progressistes et conservateurs. C'est le résultat entre ce qui n'a pas été un front républicain, mais une sorte de réflexe démocratique, en gros, entre les différentes tendances de la gauche et une grande partie de la droite, et l'extrême droite, qui a été ramenée à son extériorité, si j'ose dire. Donc, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que, à la fois... je suis impressionné par le fait qu'on assiste, il y a régulièrement des crises qui changent le système ou qui le vidangent, je ne sais pas, il y en a une en 58, incontestablement, on a vu le paysage changer, il y en a une autre en 81 aussi, c'est-à-dire que à la fois l'arrivée de Gaulle a balayé les anciens partages politiques, les a paralysés, a créé quelque chose de nouveau, et en 81, l'arrivée curieuse, d'ailleurs pas totalement attendue de la gauche, a quand même provoqué une sorte de redistribution des cartes. Mais ici, Macron a joué le même rôle. C'est-à-dire qu'il a contribué à accélérer l'explosion de la droite et de la gauche telles qu'elles étaient. Mais il n'a pas du tout changé le système. À mon avis, ce qui est très intéressant, c'est cette force de survie de la Ve République, qui est très critique, que je critique moi-même, qui je pense est fondamentalement un système antidémocratique, même s'il permet des passages possibles à la démocratie, c'est qu'il a fort bien résisté, et celui qui a gagné le rétablit dans sa pureté, c'est-à-dire que dans sa verticalité, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il se veut chef, il va décider de tout, il a non seulement tous les pouvoirs de l'exécutif, mais il commande les élections à la virgule près, ouais, etc.
Il n'empêche qu'il avait un programme, ou en tout cas, qu'il avait un idéal.
Oui, Oui,
et cet idéal, c'était le remplacement d'un clivage par un autre. Et là, je vous demande, André Burrière, je vous demande deux choses. Selon vous, que met Macron sous l'étiquette progressiste? Et ce progressisme-là, y adhérez-vous? Y reconnaissez-vous les objectifs, les orientations, les engagements de l'homme de gauche que vous êtes?
Oui, tout à fait.
André Burrière.
Tout à fait. Progressiste, effectivement, dans la mesure où il a été élu un peu contre la droite de cette façon, en assumant des valeurs de gauche. D'ailleurs, Laurent Bouvet a souvent répété qu'il ne fallait pas raisonner qu'en termes économiques. Les valeurs, effectivement, sont très importantes, non seulement pour les analystes, mais pour les gens qui votent. Et dans le vote à Macron, on ne s'est pas trompé, on n'a pas élu un conservateur sur en particulier concernant la famille, l'école, les libertés, etc. Mais dans le jeu politique, il essaie effectivement de retrouver une carte centriste. Peut-être qu'il va y arriver d'ailleurs momentanément, mais je crois que la pesanteur du partage droite-gauche se récréa nécessairement, parce que c'est une réalité qui est dans la logique de la démocratie, qui est dans nos têtes. Et quand vous parlez de l'opposition progressiste-conservateur, c'est le retour aussi, peut-être sous une forme modifiée, du partage droite-gauche.
Alors, c'est sous une forme modifiée, là. Permettez-moi quand même, André Burrière, d'exprimer mon étonnement, parce que aucun homme de gauche n'aurait dit, interviewé par le Bondy Globe, il faut qu'il y ait des jeunes qui aient envie de réussir et de devenir milliardaires. Aucun homme de gauche n'aurait misé, pour résoudre la fameuse question de vivre ensemble, sur une génération de stars dans l'entrepreneuriat et dans l'économie. Il me semble quand même que le progressisme d'Emmanuel Macron, c'est une vision économique du monde. L'économie est le problème, il l'a dit en parlant même du terrorisme qui fleurit sur un certain terreau, qui vient du fait qu'il y a un plafond de verre, etc. Et l'économie semble être la solution. C'est même, si j'ose dire, l'anthropologie, parce que c'est quand même l'homo economicus qui est célébré et peut-être qui arrive au pouvoir avec la start-up qu'a constitué Macron et qui a réussi ce coup absolument gigantesque, toute petite start-up, d'en absorber une énorme, la France. En voie peut-être donc de devenir non plus une nation, mais une start-up de dimension nationale. J'exagère peut-être, mais en tout cas, c'est pour marquer la différence entre ce progressisme-là et ce que la gauche a longtemps entendu sous ce nom. Laurent Bouvet.
Oui, alors l'analogie avec la start-up et ce qu'on pourrait appeler le modèle californien, c'est-à-dire avec une... Je remets ça toujours dans ces deux dimensions, horizontalité, verticalité, qui me paraissent bien décrire la chose. C'est-à-dire à la fois laisser énormément de liberté aux acteurs. Donc ça vient effectivement du libéralisme, de la philosophie libérale, qui est à la fois, qui est fondée sur l'homo economicus, qui est l'anthropologie du libéralisme, est une anthropologie effectivement économiciste, puisque la société est une marketplace society, comme disaient les libéraux au XVIIIe siècle, c'est-à-dire c'est la société de la place du marché, et à partir de là se développent et se garantissent dans le système par l'autogouvernement, etc., un certain nombre de droits et de libertés pour les individus. Et ça, c'est appliqué effectivement aujourd'hui à... C'est décalé en politique de modèles de réussite qui sont des modèles qu'on voit dans le monde économique, de la nouvelle économie, très bien appliqués dans cette campagne d'Emmanuel Macron pour accéder à la présidence de la République. Mais il y a une verticalité très forte dans ce modèle californien des start-up. Ces start-up, ce sont les entreprises, en général, d'un homme. C'est souvent, je dis un homme, c'est pas pour... pour ne pas dire et d'un homme et d'une femme, ce sont souvent des hommes d'ailleurs, mais peu importe, laissons cette question-là. Mais c'est autour d'une personnalité très forte, charismatique, d'un leadership, comme on dit très fort, que se constitue cette envie, ces besoins. Or, nous, dans notre système, si on se détache un peu de cette analogie qui, évidemment, a ses limites, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le système de la Ve République qui va donner à cet homme. Et c'est pour ça que la réussite d'Emmanuel Macron, ce n'est pas seulement celle de l'entrepreneuriat sympa, de la start-up, de chacun avec des intérêts bien compris qui défendraient le capitalisme, etc. C'est aussi la volonté du pouvoir dans la Ve République pour faire changer un pays dans un certain sens.
Dans quel sens ?
Alors justement, dans un sens de libération, si on veut résumer, de libération des énergies, des capacités, de redonner de la liberté, si je reprends les éléments du programme, qui est beaucoup plus qu'un simple outil marketing, qui est une véritable, je dirais pas à dire juste une idéologie, mais enfin quelque chose de très ancré, très profond. Emmanuel Macron, il croit dans ce qu'il dit. C'est pas simplement, il est pas là comme ça, dans une représentation pour que tout se passe comme avant. Il y a véritablement cette idée du changement, en redonnant de la liberté aux acteurs pour leur permettre, on a des mots très anglo-saxons qui nous viennent, empowerment, redonner du pouvoir par la liberté des acteurs. Et cela en le faisant à la française, avec un État qui redevient un État, je dirais presque instituteur du social, qui redevient celui qui va permettre à la France de bouger. Donc c'est quelque chose d'à la fois très mondialisé au sens des start-up, comme on le disait, du modèle californien, qui s'est répandu partout aujourd'hui, et en même temps très français. On est, et Emmanuel Macron l'a très bien compris, on l'a vu le soir de sa victoire, avec cette scène absolument incroyable au Louvre, cet homme seul qui s'avance dans cet espace historique qui résume la France monarchique, la France de la Révolution, la France moderne avec la pyramide de Pey, etc.
Assez mitrandien.
Avec évidemment la référence à Mitterrand, il n'y avait que des drapeaux français qui s'agitaient, contrairement à ce qui s'était passé lors de dernières inaugurations. On se rappelle de celle de François Hollande à la place de la Bastille, où il y avait des drapeaux du monde entier, il y avait des drapeaux y compris régionaux, etc. Le drapeau français était un petit peu noyé au milieu de tout cela. Donc là, on a vraiment une cérémonie républicaine, une cérémonie au-delà française, quelque chose de très vertical, qui est quand même la proposition originale. Alors peut-être est-ce ça le progressisme, c'est à la fois cette mondialisation qui rentre dans le cadre français par ce qu'il y a de plus français, par ce chef de l'État qui incarne la nation, qui incarne la France, et pas seulement qui représenterait le camp qui aurait gagné l'élection. Vous voyez la différence entre incarnation et représentation.
Avant de donner la parole à André Burrière, tempérer cette description, Laurent Bouvet. Deux choses. D'abord, cette arrivée majestueuse a été précédée quand même par un spectacle de rap, ce qui est assez singulier quand à un moment comme celui-là et quand on veut incarner ce que vous dites. Et je voudrais rappeler également, ça m'a frappé, il ne faut peut-être pas exagérer l'importance de ce symbole, je voudrais quand même rappeler que Emmanuel Macron a chanté la Marseillaise, la main sur le cœur et en fermant les yeux, ce qui n'est absolument pas dans la tradition française, même dans les coupes de...
Mais ça se fait depuis quelque temps.
Alors, ça ne se fait même pas dans les coupes mondiales de football ou de rugby. C'est une forme d'américanisation.
Oui,
donc la verticalité française avec ce moment d'américanisation, c'est peut-être
juste un mot là-dessus.
C'est peut-être un trait de l'époque.
Alain Finkielkraut. Alors sur le spectacle musical, bon, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi on a besoin à chaque fois d'avoir un spectacle musical quand on gagne une élection. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe depuis très
mieux
longtemps.
Qu'il soit de bonne qualité.
Mais je laisse ça, je n'y connais rien et je laisse ça. Sur chanter la Marseillaise avec la main sur le cœur. Évidemment que ça ressemble à quelque chose qu'on voit beaucoup dans les images parce qu'on est aussi pétri de représentations culturelles avec les séries, les films américains de la présidence américaine, le président la main sur le cœur qui regarde le drapeau, etc. Bien sûr, ce sont des représentations. Mais rien n'empêche et rien ne dit qu'on ne peut pas chanter la Marseillaise en fermant les yeux et en mettant la main sur son cœur.
Ce n'est pas le rite, ce n'est pas la coutume, ce n'est pas la tradition.
Mais
chacun ses traditions.
Voilà,
rien ne dit qu'on ne puisse pas célébrer Halloween, mais en même temps,
on le
célèbre
fait.
Halloween. Oui, mais ça fait bizarre.
Pour la Marseillaise, ça fait bizarre, et moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, j'en suis tout à fait d'accord, mais bon, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il...
Secondaire.
disons périphérique, voilà. dans l'essentiel.
Pas au sens de la France périphérique.
Pas au sens de la France périphérique.
André Burguer.
Oui, je suis aussi impressionné par la permanence des grandes orgues de la Ve République. Il y a une sorte de contrainte de la mise en scène, pas créée d'ailleurs par De Gaulle, parce que De Gaulle est venu dans des conditions un peu particulières, mais qui se sont reproduites ensuite. Giscard a mis beaucoup de soins. Mitterrand, grâce à Jacques Lang, a fait quelque chose de très théâtral. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même toujours la célébration du démiurge, de la personne qui est dans ce régime très personnel, qui, avec sa magie, sa seule force, va pouvoir changer l'ordre des choses. Et alors là, le problème, c'est la différence entre l'attente et la réalité. Or, que Macron ait joué là-dessus, ça me semble normal. C'était vraiment dans le style de son entrée dans la campagne présidentielle. Il a été très adroit. Il reconnaissait aussi que la chance l'a beaucoup aidé. Hein.
La fortune et la virtue.
Ah, c'est sûr qu'il a eu beaucoup de chance.
La fortuna et la virtue.
Aurait dit l'effondrement de Fillon, c'est lui qui l'avait prévu.
La fortuna n'existe que si on a la virtue.
C'est ça. Il l'a eu, incontestablement.
Il a eu la virtue, mais pour en revenir juste au sujet qui nous occupe, la gauche. Il me semble qu'une certaine gauche est sortie du paysage politique. Une gauche, Laurent Bouvet, à laquelle je crois vous êtes attaché, vous qui êtes à l'initiative, et vous en parlerez sans doute, du printemps républicain, je veux parler de la gauche laïque et républicaine. Manuel Valls a été sèchement battu aux primaires du Parti socialiste, et nous voyons maintenant comment il est traité par la République en marche. Il est humilié, certes, au bout du compte, La République En Marche ne présente pas de candidat contre lui à Évry, mais elle lui refuse son investiture et il doit s'estimer content. J'ajoute, et j'ai été très frappé, ça n'a pas encore été commenté, que si la République En Marche a voulu investir Mourad Boudjelal, dont le principal mérite est d'avoir réussi, si vous voulez, la mainmise du sport business sur le rugby. Alors, certes, il a refusé, mais c'était l'intention de la France, de la République en marche. Malek Bouti n'a pas reçu l'investiture et la France en marche présente un candidat contre lui. Malek Bouti, auteur de Génération radicale, c'est un exemple d'intégration et effectivement l'incarnation de la gauche laïque qui refuse de transiger. Donc cela semble avoir une signification très importante. Il me semble que là, Emmanuel Macron veut faire venir à lui une partie de la gauche, mais la gauche laïque et républicaine, celle malgré tout que vous avez défendue, visiblement il n'en veut pas. Autre exemple peut-être d'américanisation, parce qu'il est par ailleurs le défenseur de la discrimination positive pour résoudre le problème des quartiers, pour reconquérir les territoires perdus de la République. Laurent Bouvet.
Oui, alors, il défend, je reprends votre propos par la fin, bien sûr, il défend une discrimination positive à la française, attention, hein, qui n'a pas de base ethno-raciale, qui est une base territoriale, hein, comme la République l'a fait avec les zones d'éducation prioritaire, avec un certain nombre de voilà, là-dessus, il a été très clair, et d'ailleurs, en France, il y a très peu de gens qui en viennent à vouloir défendre une discrimination positive qui serait fondée, appuyée sur des critères objectivés d'appartenance à des groupes ethno-raciaux comme aux États-Unis. Hein. Donc je crois que là, bon, il faut être très clair pour nos auditeurs. Sur la gauche républicaine, je partage évidemment votre diagnostic général, c'est-à-dire que la gauche républicaine est laïque, c'est-à-dire une vision qui précisément, on le disait tout à l'heure, ne met pas d'abord et avant tout les questions économiques comme un déterminant ce qui permet de décrire le mieux la société, qui ne se limite pas justement à cette description qui peut être à la fois technocratique ou parfois, simplement de politique publique, mais qui essaie de considérer qu'il y a un commun et que dans ce commun, après, on peut avoir des divergences et les exprimer à travers des choix politiques. Le fait qu'un certain nombre d'acteurs politiques, vous avez parlé de Manuel Valls, bien évidemment, Malek Bouti aussi, qui appartiennent à cette gauche, qui ont ces dernières années montré qu'il y avait sur, notamment la question de la laïcité, un certain nombre de positions de principe qu'il fallait tenir. Le fait qu'il ne soit pas pris en compte ou accepté dans cette nouvelle majorité peut, moi je le vois comme ça, peut par la suite posera certainement un certain nombre de questions par la suite à cette majorité. C'est-à-dire que c'est comme l'absence d'un certain nombre d'autres composantes de la gauche. Là, il va y avoir une limite très forte. Alors, est-ce que c'est le modèle américain ? Est-ce que c'est simplement aussi, sur cette question de la laïcité, cette question du commun, une vision plus libérale, on y revient, c'est-à-dire plus individualisée sur la liberté de chacun comme élément absolument clé, une forme d'idée qui voudrait que la seule émancipation possible soit l'émancipation individuelle et non plus l'émancipation collective. Ça ne s'applique pas qu'à la question républicaine, ça peut aussi s'appliquer à des questions sociales.
C'était une émancipation individuelle assez paradoxale, c'est-à-dire qu'on en arrive à justifier la soumission au groupe, à travers le port du voile intégral, par exemple, au nom de la liberté individuelle. C'est pas encore lui.
On ne peut pas encore faire.
On ne peut pas faire ce procès à Emmanuel Macron. Évidemment. Mais aux États-Unis, j'ai lu par exemple le livre de Martha Nussbaum, qui citait le couturier Giorgio Armani, disant qu'il est scandaleux d'interdire le voile intégral. Là, on voit effectivement le télescopage l'individualisme et du communautarisme.
Certains en France défendent ces positions à gauche.
Pour ce qui est du nouveau président de la République, on verra. Mais que pensez-vous, André Burrière, justement, de cette disparition de la gauche laïque et républicaine? Est-ce qu'elle vous inquiète ou est-ce que...
Non, d'abord, elle n'a pas disparu. Mais c'est plutôt les notions de république et de laïcité qui se sont beaucoup déplacées et qui ont du mal à se redéfinir en fonction de la gauche. Je remarque que les grands apôtres actuels de la laïcité et de la république, c'est Marine Le Pen. C'était pas le cas de son père, mais elle est une républicaine ombrageuse, c'est la droite, c'est Fillon, etc. C'est-à-dire que, en gros, la République a été un régime honni par la droite jusqu'aux années 30, où c'était la gueuse pour Maurras et les Ligueurs, et maintenant, une façon de vouloir un peu cadenasser les institutions et empêcher peut-être la divagation de la démocratie. Quant à la laïcité, soyons honnêtes, ça a été une valeur, ça reste une valeur très importante, en particulier pour la gauche française. Parce que la laïcité en France, elle a une dimension particulière, elle date de la Révolution et elle s'est faite contre l'Église. Ce n'est pas une laïcité liberté de tous comme à l'anglo-saxonne, c'est une laïcité contre les valeurs religieuses. Or, aujourd'hui, elle est utilisée dans son intégrité essentiellement par qui ? Par ceux qui visent l'islam.
Oui, mais attendez, écoutez André Burrière, là franchement, vous dites cela, peut-être, mais Elisabeth Badinter pourrait vous rétorquer que toute une partie de la gauche abandonne la laïcité précisément parce que l'islam pose un problème, que toute une partie de la gauche considère que c'est la religion des pauvres et que par conséquent, il faut se montrer beaucoup plus accommodant avec les revendications de certains musulmans, pas de tous, qu'on ne l'a été avec l'Église. D'où la tristesse de Marine Le Pen, d'Elisabeth Badinter, de voir précisément Marine Le Pen s'emparer de la question de la laïcité, mais elle se demande, peut-être est-ce le cas aussi des initiateurs du printemps républicain, pourquoi toute une partie de la gauche l'a abandonné? Parce que on peut aussi réfléchir en ces termes. Et d'ailleurs, la gauche est très divisée sur ce thème. On le voit et vous allez peut-être nous éclairer là-dessus. Par exemple, dans le débat qui a opposé Manuel Valls et Jean-Louis Bianco, qui est le directeur actuel de l'Observatoire de la laïcité, et il est arrivé à la direction de cet observatoire pour mettre en sommeil le Haut Conseil à l'intégration, et sa première parole était de dire « La France n'a aucun problème avec la laïcité ». Donc on peut aussi renverser votre proposition, André Burrière. C'est parce que la gauche se dessaisit d'un certain combat laïque par peur de l'islamophobie que la droite s'en empare.
Je crois que la gauche ne se dessaisit pas, elle essaie de le réadapter au problème de l'heure. Vous savez, ce problème de laïcité a été plusieurs fois lié au phénomène de l'immigration. J'entends que pour l'islam, ça ne concerne pas les immigrés, ça concerne aussi plus de 3 millions maintenant de citoyens français, mais qui sont issus de vagues d'immigration. Or, il y a eu un phénomène un peu du même genre dans l'entre-deux-guerres avec les Polonais. Les Polonais ont eu le droit d'avoir leurs écoles avec en France, avec des crucifix, etc. Mais à l'époque, ça n'a scandalisé personne, parce qu'il y avait peut-être plus de forces réactives, et ça n'a pas du tout détruit la laïcité ni la République. Aujourd'hui, je pense que ces débats transfèrent un problème qu'on ne veut pas poser dans sa réalité complète, si vous voulez. C'est-à-dire que les musulmans français, c'est la nouvelle classe ouvrière. C'est une grande partie ce sont les classes populaires. Alors, où on les encercle, où on déplace le problème, et ce ne sont pas d'ailleurs nécessairement des musulmans fanatiques, loin de là. Là aussi, il y a le détail, et je me souviens, je suis allé il y a quelques années, c'est la seule fois de ma vie en Égypte, et au Caire, en marchant dans la rue, un monsieur très très distingué, qui nous a entendu parler, qu'on parlait français, il parlait très bien français, et il nous a dit, mais pourquoi vous faites tout ce problème à propos du voile musulman. C'était un trait français, c'est-à-dire une question d'écharpe. C'est un phénomène, et nous verrons dans 10 ans, dans 20 ans, que ces problèmes auront été très, très surexposés. Si
ah bon, vous le trouvez?
Oui, je le trouve.
Plusieurs niveaux de poser le problème. D'abord, pour la gauche, il y a eu, dans l'abandon à partir des années 80, on en parlait tout à l'heure avec la victoire de 1981, il y a eu ce que, bon, c'était le titre d'un livre fameux, l'adieu au prolétariat. C'est-à-dire que le fait que la gauche épouse, pour des raisons à la fois économiques et culturelles, et j'ai défendu la thèse que c'était déjà joué en 81, parce que dans les années 70, il y a une forme de d'épousaille avec le libéralisme à gauche, qui passe par un libéralisme qu'on appellerait aujourd'hui sociétal, culturel, de l'après 68, de l'émancipation, avec l'ensemble de l'ouverture de droits des minorités. La gauche, c'est le combat féministe, même si certains à droite, on se souvient évidemment de Simone Veil, le prennent aussi à charge, par exemple sur l'avortement, bien évidemment. C'est le combat pour les droits des homosexuels, c'est le combat pour les régionalistes aussi, à l'époque, bien sûr pour l'immigration de la première génération, etc. À l'arrivée au pouvoir, ce combat pour la liberté et pour les libertés devient aussi un combat économique avec la transition des années 82-83. C'est à la fois l'arrimage à l'Europe qui est une Europe qui va se construire de plus en plus de manière libérale avec cet accord entre les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens. Et puis en même temps, la marche des beurs, la volonté d'intégration de populations qui se sont installées, qui, contrairement à ce qui était prévu au début, ne repartent pas. Donc il y a une deuxième génération qui demande l'égalité des droits de manière tout à fait logique. À partir de là, il va y avoir une gauche, un ensemble, ça va être le cas aussi bien au Parti communiste que Parti socialiste, chez les Verts, etc., qui va substituer en quelque sorte un prolétariat à un autre, comme vous l'aviez très bien dit, André Burger, tout à l'heure. C'est-à-dire que le damné de la terre va devenir non plus le prolétaire, ce qu'on appellera aussi les catégories populaires, peu importe, mais les appellations, mais une catégorie particulière de la classe ouvrière. C'est-à-dire, en particulier, ceux qui sont venus le plus récemment. Parce que ils sont de plus en plus, disons, ghettoisés dans des banlieues qui les accueillent, où ils s'installent, d'où ils ne peuvent pas partir. Seule une petite partie qui atteint la classe moyenne peut s'en aller, etc. Et là, il va y avoir, après la fin de notamment après 89-90, la chute du communisme, l'idéal, l'horizon devenant finalement la société capitaliste, le développement des droits, de la démocratie, la seule manière de montrer qu'on est de gauche va devenir une manière beaucoup plus sociétale, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, beaucoup plus culturaliste, si on veut, sur les minorités, etc. Et on aboutit des années après à la fameuse note de Terra Nova en 2011, en novembre 2011, en mai 2011, mais qui va être ensuite reprise évidemment, qui sera de dire abandonnons les petits blancs, ces anciens ouvriers des périphéries, désindustrialisés, la gauche a participé à la désindustrialisation, abandonnons-les de toute façon comme objectif et comme projet, puisque de toute façon, désormais ils votent pour le Front National quand ils ne s'abstiennent pas. Voilà. Et on retrouve notre carte et notre séparation. Et là, on a quelque chose qui est très intéressant parce que qui vote à gauche dans les catégories populaires et chez les jeunes, on a dit Jean-Luc Mélenchon a eu des jeunes et des catégories populaires qui sont venus voter pour lui par rapport à 2012. Oui, c'est vrai. Il a eu l'électorat, notamment dans les grandes villes et les banlieues, qui avait voté François Hollande en 2012, ou ceux qui sont venus depuis les nouveaux électeurs qui n'avaient pas voté en 2012. Mais ce ne sont pas les mêmes jeunes et les mêmes catégories populaires que celles qui ont voté Le Pen. Il n'a pas pris de voix à Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on peut entendre. Donc là, il y a quelque chose, il y a une fracture. Et cette fracture, la gauche n'arrive pas à la gérer, comme elle n'arrive plus à gérer les thèmes de la laïcité, de la place de l'islam aujourd'hui en France, comment est-ce qu'on l'intègre, des frontières, etc.
Alors cette fracture est très intéressante. Dans votre livre, La gauche zombie, Laurent Bouvet, vous revenez à plusieurs reprises sur cette note de Terra Nova, oui, à laquelle, à juste titre, à mon avis, vous accordez une très grande importance, puisque cette note appelle à une nouvelle coalition rassemblant des électorats aux valeurs progressistes. Le progressiste affleure.
C'est ça l'idée.
Jeunes, femmes, diplômées, minorités et quartiers populaires, comme on dit. Et ce nouvel électorat s'oppose à un électorat qui défend le présent et le passé contre le changement, qui considère que la France est de moins en moins la France, que c'était mieux avant. Un électorat inquiet de l'avenir, plus pessimiste, plus fermé, plus défensif. Cet électorat populaire, on l'abandonne. Et là, je me demande, un, si précisément ce n'est pas, sous le nom de progressisme, Terra Nova qui triomphe aujourd'hui. Causeur avait fait un titre à propos de Macron, « Au secours, Hollande revient ». Je n'avais pas aimé ce titre parce qu'il me semblait que c'était plutôt Terra Nova qui déboule. Et alors là, effectivement, le clivage à gauche se précise. Parce que face à cette espérance, face à cette nouvelle coalition, il y a Elisabeth Badinter dans la préface à La France soumise, le livre publié sous la direction de Georges Bensoussan, qui dit « Le déni de la réalité est un cancer » et qui voit naître une seconde société qui tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession, et qui s'inquiète de justement cette désintégration française, et qui se demande comment y réagir. Il me semble que là, si vous voulez, les oppositions s'éclairent, au moins à l'intérieur de la gauche. André Burguière.
Oui, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Je pense que effectivement, Macron est le fils de Terra Nova, certainement, c'est cette vision du monde. Donnons-lui sa chance, il a peut-être des possibilités, mais il ne résume ni n'annonce ce que peut être une politique de gauche. Et je crois que la gauche ne s'enfermera jamais uniquement dans le système Macron. On verra d'abord si ça marche. Donc, il me semble que cette gauche soi-disant ouverte, ouverte parce qu'elle a quitté la classe ouvrière. Alors, on arrive à des déplacements que nécessairement les classes populaires sont plus rigides, et que dès qu'on va vers la liberté, on quitte. Non, d'abord, effectivement, la liberté n'est pas une et les libertés et les valeurs, la liberté individuelle n'est pas une valeur nouvelle à gauche. Elle a toujours existé. C'est plutôt la difficulté. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. C'est à quitter le long couloir du communisme. C'est que après 81, effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que le communisme qui s'est effondré. Il y a une certaine vision, une vision de l'avenir et un investissement dans l'avenir qui était partagé par une grande partie de la gauche, qui avait fini par être l'éclairage de la gauche. Et c'est ça qu'il faut repenser.
Alors là, justement, ça me donne envie de vous poser une toute autre question. François Mitterrand, vous en conviendrez avec moi, a réussi un coup fabuleux avec l'union de la gauche. Le Parti communiste était un repoussoir, empêchait la gauche d'accéder au pouvoir. Il a fait alliance, mais cette alliance, effectivement, elle a joué en sa faveur. C'était la domination de la gauche réformiste sur ce qu'était alors la gauche radicale. Et nous assistons aujourd'hui à un renversement quand même très inattendu. C'est-à-dire, la gauche radicale l'emporte sur la gauche réformiste. Le Parti socialiste vole en éclats. Jean-Luc Mélenchon se présente à Marseille contre un candidat socialiste et il annonce la couleur, c'est-à-dire il veut remplacer le Parti socialiste. Alors comment expliquer ce succès de la gauche radicale et jusqu'où, selon vous, peut-il aller, Laurent Bouvet ?
Alors, il y a ce que veut Jean-Luc Mélenchon et il y a ce qui peut se passer. Dans cette élection, le candidat de la gauche de gouvernement, du PS, Benoît Hamon, qui a été désigné par la primaire, on pourrait en dire beaucoup sur la primaire, qui, comme à droite avec Fillon, ont désigné des gens qui sont dans les ailes radicales de leur propre famille politique, l'un très à droite, l'autre très à gauche, et Benoît Hamon a fait une campagne de gauche radicale avec les écologistes sur des questions sociétales, parce qu'on dit la gauche Terra Nova, c'est Macron. D'abord, évidemment, la gauche Terra Nova, c'est-à-dire le libéralisme culturel sociétal plus le libéralisme économique, est présent chez Macron, mais il n'y a pas que ça chez Macron. Mais cette gauche Terra Nova, dans sa version sociétale et culturelle, pas économique, est présente partout ailleurs, à gauche aussi. Hein, il faut bien voir que...
Évidemment, tout ce qui est Terra Nova, tout ce qui n'est pas Terra Nova n'est pas nécessairement radical.
Exactement.
Je pense que Hamon, son programme était assez raisonnable.
Par exemple, sur le revenu universel, il y avait eu déjà des travaux. Bon, mais peu importe.
Sur l'Europe, par exemple.
Voilà, exactement. En tout cas, Hamon a choisi une stratégie, disons, d'aller voir les électeurs plutôt vers sa gauche, avec des différences sur l'Europe, effectivement. Jean-Luc Mélenchon a, lui, réussi à capter, beaucoup mieux qu'Hamon, qui était un frondeur, a réussi beaucoup mieux à capter la colère contre ce qui s'est passé pendant 5 ans, contre le quinquennat. Et beaucoup des électeurs de la France insoumise dans cette élection, le score de Jean-Luc Mélenchon, viennent d'électeurs déçus de Hollande en 2012. C'est-à-dire qu'il y a là le bloc essentiel qui a fait le succès de Jean-Luc Mélenchon, ce sont des déçus de gauche qui ont voulu marquer leur déception.
Déçus de la gauche de gouvernement, mais, donc c'est quand même une victoire d'une certaine radicalité.
Bien sûr, mais c'est une victoire qui sera sans doute une victoire temporaire, parce qu'il n'y a pas dans la manière de gouverner, dans la manière de mener des réformes, des politiques publiques, hors d'un bloc qui est important, on l'a vu avec les manifestations contre la loi travail, la loi El Khomri évidemment, mais qui existe, qui est important, qu'on voit présent chez les syndicats, dans une partie de la gauche, une gauche mouvementiste, etc. On l'avait vu aussi avec Nuit Debout, qui existe aussi à travers la presse, à travers certains intellectuels, qui est importante, mais qui reste très minoritaire en France. Hein, qui a une importance parce qu'elle est, mobilisable, et mais qui reste quand même minoritaire. Le pays, aujourd'hui, n'est pas à gauche. Il y a une volonté d'aller vers d'autres solutions, vers d'autres manières de résoudre un certain nombre de questions économiques. C'est-à-dire que cette opposition, par exemple, à la question de la réforme du Code du travail, les Français ont voté pour un candidat, et si on regarde même le premier tour, si on regarde de loin ce vote, est-ce que c'est un vote de confiance ou non à Macron, toutes ces analyses bien sûr sont valables, mais il y a quand même disons très nettement une volonté de à minima poursuivre les réformes dans le sens qui avait été entrepris, même si ça a été contesté par une partie de la gauche pendant le quinquennat d'Hollande. Donc on n'est pas dans une perspective où la gauche radicale pourrait remplacer aujourd'hui toute la gauche, en finir la fin du parti d'Épinay de 1971, le PS refondé avec Mitterrand, l'Union de la gauche, etc. en 71, ça c'est sûr, c'est en train de se passer. Mais c'est pas la France insoumise, une forme de nouvelle radicalité héritée du communisme, etc., qui aujourd'hui est en train de prendre le pas. Ça, je crois que c'est une erreur de le penser.
Je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il faut s'interroger quand même sur le succès. On peut pas le mettre entre parenthèses sur le succès de Mélenchon.
Ah bien sûr.
Or, il a recréé une ébauche de ce qu'a été le rôle du communisme à son moment de puissance dans les années 50-60. C'est-à-dire que il était une force imposante, une force qui n'arrivait jamais au pouvoir, qui d'un certain côté ne le cherchait pas d'ailleurs, une force de contestation qui arrivait à d'autant mieux à absorber le ressentiment, le mécontentement, les frustrations populaires de la classe ouvrière, qu'il y avait quelque part un pays qui en principe était censé l'incarner. Bon, puis à partir d'un certain moment, cette incarnation a cessé d'être acceptée et il s'est progressivement effondré. Il n'a pas été véritablement remplacé. Or, Donc, il y a toujours, or, cette colère a continué à exister. Elle a servi surtout l'extrême droite.
Oui, c'est ça.
Les frustrations, mais...
La différence
pourquoi,
entre les années 50,
voilà,
c'est celle-là.
Mais visiblement, c'est, heureusement d'ailleurs, cette insatisfaction populaire ne va plus maintenant uniquement du côté de Marine Le Pen. Mélenchon, de ce point de vue-là, on voit d'ailleurs... c'est un peu l'ambiguïté, à mon avis, et le côté ambivalent et dangereux de son courant, c'est-à-dire qu'il joue sur cette fonction tribunicienne qui le fait ressembler par bien des aspects à Marine Le Pen, et en particulier le refus de l'Europe, leur point de proximité est lié à ça.
Sauf que la différence sur les questions culturelles et plus économiques.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a deux ailes...
Et sociales quand même aussi.
Deux ailes très fortes de contestation du système, comme on dit, une très à gauche, une très à droite aujourd'hui, mais qui ne peuvent se réunir bien qu'elle soit d'accord sur un programme anti-européen, par exemple, sur l'essentiel, économiquement, et parce que sur les questions de l'immigration, de la frontière, etc., elles ne peuvent pas se réunir. Et c'est ça l'histoire de cette élection. Alors qu'on a un bloc central qui peut être minoritaire de manière générale dans la société, si on se réfère au référendum de 2005 du non qui était majoritaire en France contre l'Europe, le bloc central, sa partie libérale, sa partie conservatrice, sa partie progressiste conservatrice, si l'on veut, entre Emmanuel Macron en marche d'un côté et puis les Républicains de l'autre de manière générale avec les centristes, eux peuvent se réunir sur l'essentiel, sur la défense des libertés, la défense européenne, etc., l'Europe des libertés et du marché, si vous voulez, plus facilement, même s'ils ne sont pas d'accord sur les valeurs. Vous voyez, c'est comme ça que s'est déroulée pour moi cette élection.
Mais ça me semble important, le fait que, curieusement, alors que, semble-t-il, dans l'opinion française, l'Europe ne soit plus aussi populaire qu'elle l'a été, par exemple, dans les années 60, quand elle n'était pas encore faite, etc., je suis frappé par le fait que le thème de l'Europe a dominé, et de l'adhésion à l'Europe, a dominé, disons, si on met à part Mélenchon et Marine Le Pen, le débat électoral. Donc il y a visiblement là la vision d'un avenir possible. Et à mon avis, c'est quelque chose que la gauche peut utiliser si elle veut renaître de ce point de vue-là, c'est-à-dire une perspective, non pas l'Europe telle qu'elle est
mais
justement une Europe en associant les forces humanistes, comme on dit, les syndicats, qui sont d'ailleurs de ce point de vue-là très absents du jeu européen, de l'espace européen, et ça c'est un élément nouveau. Actuellement, cette Europe unit effectivement Macron à la gauche sans véritablement l'isoler d'une partie de la droite, donc ce n'est pas suffisamment, c'est pas une ligne de démarcation, mais c'est une ligne de conquête et d'évolution possible.
Un dernier mot sur Mélenchon, j'ai un peu le sentiment qu'avec la France insoumise, si vous voulez, c'est la République de Nuit Debout qui l'a emporté sur la République et l'esprit du 11 janvier, une France unie autour d'un ennemi commun. Et là, c'est plutôt le discours de la lutte de classe qui l'emporte. Tout le monde déteste la police, et non plus je suis la police, je suis la République, je suis Charlie. Et il me semble qu'il risque d'avoir un très grand pouvoir d'empêchement, parce que les manifestations contre la loi El Khomri laissent présager une très forte mobilisation contre toute forme, toute tentative de réforme du Code du Travail. Simplement, je voudrais finir par une autre question, parce que conservateur progressiste dit Macron, mais il ne me semble pas que le conservatisme ait été vraiment représenté dans la campagne, parce qu'il y a beaucoup de gens, en effet, de toutes obédiences, qui sont attachés, disons, à la sauvegarde de la langue, à la sauvegarde des paysages, peut-être à la sauvegarde même de la civilisation. Alors on les appelle conservateurs. Il existe un conservatisme de gauche, c'est celui d'Orwell, que Michéa tente d'actualiser aujourd'hui. Il aurait pu exister un conservatisme de droite, mais je rappelle qu'au dernier meeting de François Fillon, c'est un appel vibrant à tous les progressistes qu'a lancé Luc Chatel, en disant nous sommes le parti des OGM, nous sommes le parti des gaz de schiste. Donc d'une certaine manière, le conservatisme, on a le sentiment aujourd'hui qu'en réalité, il n'a pas voix au chapitre, que c'est peut-être lui le très très grand perdant de l'élection.
Mais c'est aussi le moi je poursuivrai ce que vous dites par l'échec de Marine Le Pen, l'incapacité de Marine Le Pen à réunir, à cause justement de sa position sur l'Europe, à cause de son, de sa difficulté à parler d'autre chose finalement que d'essayer d'aller chercher, notamment au second tour, des électeurs mélenchonistes contre l'Europe, alors que des électeurs mélenchonistes ne peuvent pas voter massivement Marine Le Pen pour des questions de, sur l'immigration, etc., des, qui séparent la droite de la gauche fondamentalement. On revient au début de votre émission. Eh bien, au lieu de, d'assumer une forme de conservatisme, de reprendre les fondamentaux, comme on dit aujourd'hui, du Front National sur l'immigration, sur la nation, etc., d'appuyer là de, et d'aller chercher le vote conservateur en, en laissant de côté cette question de la sortie de l'euro pour aller chercher ces retraités qui votent Fillon, qui ont des valeurs conservatrices sur la famille, etc.
Et vous ne pensez pas que le conservatisme, au sens que j'ai essayé de définir, mérite mieux que le Front National ?
Bien sûr, non mais ça, non, j'ajoute ça parce que c'est ça l'échec, au-delà de son débat complètement raté, c'est ça l'échec de Le Pen, c'est de ne pas avoir réussi à faire ce que propose depuis longtemps Patrick Buisson, vous savez, qui est la réunion du vote populaire et du vote conservateur, pour qu'il y ait enfin en France une véritable droite, comme lui la souhaite. Et là, ça aurait été, je pense que si Marine Le Pen avait été plus intelligente, plus fine dans sa stratégie de campagne, elle aurait pu être aussi cette candidate. Cependant, je pense qu'elle n'a pas pu être parce qu'elle, personnellement, n'est absolument pas une conservatrice.
Non, c'est dans le sens que vous disiez. Et il est vrai aussi qu'avec sa volonté carnassière de casser les codes, elle a donné une forme trumpiste à un discours mélenchonien. Et ainsi, c'est elle, en effet, écrasée en vol sous les yeux des téléspectateurs ahuris. D'ailleurs, et parmi eux, elle ne pouvait certains électeurs du Front National.
Cela dit, elle peut incarner ce qu'on a appelé en Allemagne la révolution conservatrice dans les années 20. C'est-à-dire, évidemment, c'est quelque chose qui a fini, qui a abouti qui a mal fini au nazisme. Et qui était justement de dire, il y a un avenir à partir de valeurs véritablement conservatrices. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut, vraiment adhérer à... Et la droite française, elle a toujours gardé des traces libérales importantes.
Voilà,
ce conservatisme a toujours été très minoritaire.
Très minoritaire en France.
Et Marine Le Pen elle-même n'est absolument pas conservatrice.
Donc, révolution conservatrice, par opposition à cette référence qui est quand même assez terrible, je voudrais terminer en citant le texte de Kolakowski qui vient fort heureusement de reparaître. Comment être socialiste, conservateur, libéral, avec d'autres articles. Ce credo est publié aux éditions des Belles Lettres. Il me reste à vous remercier, Laurent Bouvet. Vous êtes l'auteur de La gauche zombie, chronique d'une malédiction politique, aux éditions Le Mieux. André Burguière, vous publiez « La gauche va-t-elle disparaître ?» chez Stock. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Justice et politique, la séparation des pouvoirs ». Mes invités seront François Faletti et Antoine Garapon. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Célia Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.